la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour et merci à Canal Académie pour cette invitation. Je me présente Nelly Notto-Jaffeux, docteur en droit privé et sciences criminelles et enseignante-chercheuse à l'Université de Grenoble. Je suis également membre du Centre de recherche juridique et du Centre de recherche critique sur le droit, ce dernier laboratoire étant celui de la Faculté de droit de Saint-Étienne, au sein de laquelle j'ai réalisé mon cursus universitaire. Alors, mes recherches étant consacrées à la justice et au droit des professions, plus particulièrement aux déontologies, à l'éthique, à l'alerte, au droit de la conformité, le droit de la compliance, c'est évidemment un honneur pour moi que de pouvoir prendre la parole aujourd'hui afin de présenter mes travaux relatifs à l'indépendance de l'avocat, lesquels vont d'ailleurs très prochainement être publiés aux éditions Presse universitaire d'Aix-Marseille. Le prix Albert Viala qui m'a été décerné par l'Institut de France pour cette thèse de doctorat est destiné à récompenser une œuvre ayant pour objet la défense des libertés fondamentales. Or, dans notre système de droit, la défense des libertés fondamentales, et en particulier le droit à un avocat indépendant, est un sujet assurément central. C'est d'autant plus vrai que durant toute l'histoire des avocats, et en particulier des évolutions de cette profession, un argument principal, si ce n'est unique, a toujours et est encore mobilisé, l'indépendance de l'avocat. Il n'est donc pas surprenant qu'elle puisse être considérée par certains comme une vertu, un état, voire l'ADN de l'avocat, ou pour garder un vocable davantage juridique, qualifié de statut, de caractéristique essentielle, de droit, de garantie ou encore de devoir. Du point de vue légal, le principe selon lequel la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, comme l'expression « l'indépendance de l'avocat », sont consacrés depuis maintenant presque 50 ans. Du point de vue déontologique, le principe d'indépendance est général, essentiel, absolu. Le règlement intérieur national, le texte de référence en la matière et qui s'impose à tous les avocats, disposant textuellement que la multiplicité des devoirs incombant à l'avocat lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d'influence extérieure. Et bien malgré cette production normative, ce principe ne bénéficie d'aucune définition précise. Il persiste ainsi à multiplier les occurrences discursives, comme en témoigne par exemple le projet du statut d'avocat en entreprise qui, disons-le quand même, depuis maintenant presque 40 ans, se heurte à l'indépendance de l'avocat et plus particulièrement son incompatibilité avec un rapport d'emploi salarié. L'objectif de cette étude a donc été non pas simplement de déterminer la fonction et les enjeux que ce principe légal poursuit, mais également de clarifier les raisons pour lesquelles, encore aujourd'hui, les avocats s'identifient individuellement autant qu'ils s'appuient collectivement sur leur indépendance. Dans ce contexte, le travail de thèse entrepris a supposé de prendre en compte la fonction de l'objet de recherche et plus précisément les effets recherchés à travers son invocation. Cette méthode, qui se situe dans une démarche pragmatique, a permis de dépasser le concept pour prendre en compte l'ensemble de ses dimensions et plus particulièrement son histoire, ses évolutions, ses enjeux sociaux, ses effets. À ce titre, les approches pluridisciplinaires ayant utilement contribué à la constitution du matériau d'ensemble. Cette approche a permis de fournir une vision plus fine de la profession, de son rôle au sein de notre système de droit, si bien qu'il a alors été possible d'analyser les occurrences de l'indépendance de l'avocat en droit positif, d'en comprendre les effets recherchés et ainsi rendre intelligibles les raisons pour lesquelles, encore aujourd'hui, l'indépendance constitue un sujet si central pour les avocats, mais aussi et surtout plus largement pour l'état de droit. En arrière-plan, cette démarche a permis d'évaluer l'effectivité des effets recherchés par l'indépendance de l'avocat, pour ainsi être en mesure de repérer les situations dans lesquelles elle peut aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs, sembler menacée. La première partie de ma thèse fournit une définition fonctionnelle de l'indépendance de l'avocat, dans l'objectif de procurer une clé de lecture opérationnelle pour comprendre la suite. Dans sa conception traditionnelle, l'avocat défend l'intérêt de son client devant le juge. Ce rôle d'auxiliaire de justice impliquant plus largement la défense des droits de chacun, voire du droit en général. Et c'est à ce titre que les avocats ont de manière constante éprouvé le besoin de revendiquer une liberté presque absolue. Plus exactement, pour exercer sa fonction, l'avocat a été conduit à garder une certaine distance à l'égard du juge devant lequel il plaide, à l'égard du pouvoir dont il dénonce les dysfonctionnements, et de son client, qui ne doit en aucun cas lui dicter sa conduite. Ce dessein, sur lequel l'avocat a construit sa fonction, constitue l'origine de son indépendance. Or, bien que ces dernières décennies, les activités de l'avocat se soient considérablement étendues et ne se limitent plus du tout à la défense au prétoire, eh bien l'indépendance est restée modélisée par rapport à cette fonction initiale. Schématiquement, la liberté de moyens, d'action et d'expression est une condition nécessaire à la bonne réalisation de la fonction d'avocat. Cette liberté, elle n'est pourtant qu'utopique si les influences ou contraintes qui l'entourent ne sont pas neutralisées. Si bien que la liberté que requiert l'exercice de cette profession suppose une dimension négative qui se matérialise par l'absence de lien d'autorité. Le juge n'a pas de pouvoir disciplinaire sur l'avocat. Cet aspect assurément central pour les droits de la défense ne date pourtant que de 82. De la même manière, sitôt qu'un avocat a le sentiment que son client tente de porter atteinte à sa liberté, il peut se retirer sans motif. Par conséquent, la liberté, qui est l'enjeu du modèle, est garantie par des instruments juridiques permettant de neutraliser les influences ou contraintes externes. Ces deux dimensions, la liberté et l'absence de lien contraignant, constituent l'indépendance de l'avocat comme condition fonctionnelle de l'exercice de cette profession. L'histoire des avocats a pourtant montré que si cette indépendance, et plus particulièrement la liberté qu'elle vise, n'est pas suffisamment encadrée, cette indépendance et la liberté disparaît. Ainsi, et pour réguler leur situation d'indépendance, les avocats se sont dotés sur le plan collectif d'un appareillage institutionnalisé autonome de l'État, leur ordre. En France, c'est donc l'appartenance de l'avocat à cette organisation collective autonome qui va constituer la condition de l'indépendance individuelle. Plus exactement, l'avocat bénéficiera de l'indépendance que requiert sa fonction uniquement si, en contrepartie, il s'engage auprès de son cercle d'appartenance à respecter les règles déontologiques liées à sa fonction. Et cette condition se matérialise d'ailleurs lors de la prestation de serment, jour où le candidat intègre officiellement la profession. Par conséquent, en France, l'État concède, garantit et protège la liberté que commande la fonction d'avocat, sous réserve que l'ordre, dont le rôle est de veiller au respect des principes éthiques et règles pratiques qu'exige cette fonction, sous réserve que l'ordre contrôle de façon efficace le comportement de ses membres et l'usage qu'ils font de leur indépendance. Tel est le modèle sur lequel repose la fonction d'avocat. Et pourtant, ces dernières décennies, ce modèle de l'avocat français, en droit français, a subi de profonds bouleversements. Donc la seconde partie de ma thèse entend identifier ces bouleversements, afin d'analyser leurs effets concrets sur le concept modélisé et ainsi évaluer l'efficacité du modèle. Le résultat procure une meilleure vision de l'effectivité actuelle de la liberté de l'avocat, cette dernière, je le rappelle quand même, demeurant l'enjeu de l'indépendance. Alors, il faut savoir que l'archétype libéral sur lequel la profession d'avocat s'est construite a été significativement aménagé durant ces dernières années. Dans un premier temps, c'est la frontière entre l'avocat et l'argent qui a été assouplie. Les avocats se sont rapprochés du marché en investissant le domaine du droit des affaires, en exerçant au sein de structures plus ou moins importantes, parfois capitalistiques, parfois interprofessionnelles, intégrant ainsi dans leurs activités les logiques de profit et de rentabilité. Dans un second temps, c'est l'absence de lien d'autorité sur l'avocat, notamment du fait du client, qui a été remise en cause, modifiant alors la conception relationnelle du rapport au client. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec le développement des legal tech, mais aussi, on peut parler de manière plus prospective avec la question actuelle de la création du statut d'avocat en entreprise. Il va de soi que ce phénomène a supposé de modifier l'indépendance de l'avocat. En clair, la portée de cette indépendance a été réduite à sa dimension principalement intellectuelle et technique, si bien que son volet financier, lequel allait presque de soi jusqu'alors, est devenu secondaire, permettant ainsi à certains avocats de devenir financièrement liés à un confrère, cas topique de la collaboration, et pourquoi pas demain, à un client unique, dans l'hypothèse que le statut d'avocat en entreprise voit jour. Dans ce contexte, de nouveaux liens économiques sont apparus et se sont insérés au sein du modèle fonctionnel. L'influence que ces rapports, quel que soit leur degré d'ailleurs, pouvaient avoir sur l'indépendance intellectuelle et technique de l'avocat, n'a pourtant pas été véritablement prise en compte, et on le voit très bien en étudiant les débats parlementaires. Les instruments de régulation ne sont donc plus suffisamment adaptés. Par conséquent, la transformation de la profession d'avocat a provoqué des répercussions concrètes sur la liberté de l'avocat, et c'est in fine sur ce point que semble en tout cas résider une grande part des controverses actuelles. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. Ce phénomène de libéralisation de la profession a provoqué une réaction de l'autorité publique qui, parce que les avocats ont investi le marché, a donc décidé de réévaluer sa distance jusque-là concédée avec les avocats, notamment en renforçant ses contrôles. À ce titre, les autorités administratives et judiciaires vont respecter les modalités du mécanisme fonctionnel de l'avocat, essentiellement lorsqu'il s'agit d'un dossier relevant des droits de la défense. En revanche, pour tous les autres, le principe ne semble plus être celui de l'indépendance. Vous avez d'ailleurs une récente décision de la Cour de cassation qui est venue rappeler que, dans le cadre d'un contrôle, en l'espèce c'était un contrôle, une saisine opérée par la DGCCRF, mais peu importe, le retrait des correspondances avocat-client des documents saisis était à la condition expresse que cette correspondance concerne l'exercice de la défense. Autrement dit, si elle ne concerne pas l'exercice de la défense, la DGCCRF peut saisir. Si bien qu'aujourd'hui, pour l'autorité publique, l'indépendance de l'avocat est non plus considérée au prisme de la qualité du praticien, mais plutôt en fonction de la nature du dossier du client. La portée de l'indépendance de l'avocat est donc fortement réduite. Tous ces phénomènes constituent aujourd'hui des défis importants pour l'indépendance de l'avocat. Que ce soit vis-à-vis du client, de l'autorité publique et plus largement du marché d'ailleurs, l'indépendance est devenue un concept à géométrie variable en fonction de paramètres multiples qui peuvent être le mode d'exercice, la taille du cabinet, le statut, le type de clientèle. Et pourtant, faut-il rappeler que l'indépendance et l'ensemble du modèle sur lequel elle repose n'a pour unique enjeu que de procurer à l'avocat les conditions nécessaires à l'exercice de sa fonction. En définitive, les failles que cette étude met en exergue dans le modèle fonctionnel de l'indépendance de l'avocat invitent à se questionner prioritairement sur ce que figure aujourd'hui la fonction sociale de l'avocat. Car ce n'est qu'une fois que cette question aura trouvé réponse qu'il sera alors possible de déterminer dans quelle mesure l'indépendance de l'avocat, ou à tout le moins sa fonction, son objet, devra être impérativement préservée. Tel qu'il résulte des pratiques opérées par l'autorité publique, lorsque l'avocat représente les intérêts de son client hors prétoire, activité autrefois dévolue au conseil juridique et encore avec eux aux agents d'affaires, ce rôle se distingue de celui de la défense dans son sens historiquement premier. Si bien que dans ce type de situation, l'indépendance du praticien, parce qu'elle reste consubstantielle à la défense au procès, ne se justifie plus. Du point de vue des autorités, les avocats se distinguent donc désormais selon l'activité pratiquée, laquelle va ainsi permettre de déterminer le traitement à adopter. Le problème avec cette solution, c'est qu'elle risque à terme de porter atteinte aux droits de la défense. En effet, la frontière entre le domaine judiciaire et le domaine extrajudiciaire reste ténue, voire illusoire. L'activité de conseil se retrouve dans les deux domaines. Ce critère n'est donc pas aisé à comprendre et à mettre en œuvre, voire, il faut l'admettre, n'est pas toujours respecté. Tel qu'il résulte du discours majoritaire des avocats, la défense s'entend au procès, mais intègre désormais aussi leur rôle d'accompagnement, que ce soit afin de trouver une solution amiable ou bien de préserver les intérêts de leurs clients dans le cadre d'une transaction, par exemple. En somme, pour les avocats, l'extension de leur domaine d'activité n'a pas modifié l'objet de leur fonction sociale. Ils restent les défenseurs des intérêts de leurs clients, que ce soit comme auxiliaire du plaideur, donc au prétoire, ou bien plus largement comme auxiliaire du sujet de droit, les avocats considérant agir alors à titre davantage préventif afin d'éviter de recourir à la justice. C'est la raison pour laquelle ils considèrent que leur indépendance doit rester invariable et cela quelle que soit l'activité que leur mission implique. Cette conception de leur fonction suppose pourtant de repenser leur modèle fonctionnel. Plus précisément, il va falloir mettre en place des instruments de régulation suffisants pour permettre en amont de mieux garantir l'effectivité de l'indépendance, et cela de façon analogue pour tous les avocats, et en aval, la confiance de l'autorité publique, comme du client, va devoir être rétablie. Probablement que pour ce faire, les incompatibilités et plus largement les limites avec le marché vont devoir être réévaluées. Et il va d'ailleurs aussi certainement falloir doter l'ordre d'instruments plus contraignants pour lui permettre de contrôler de manière plus efficace l'usage qu'ont ses membres de leur liberté. Mais il est vrai que dans cette hypothèse, l'unité sera préservée. L'indépendance restera une condition fonctionnelle commune pour tous les avocats. Alors, pour conclure, l'intégration du rapport à l'argent dans les relations professionnelles de l'avocat, de même que l'évolution de ses relations avec les pouvoirs publics, constitue aujourd'hui des défis considérables pour l'indépendance de l'avocat. Cette indépendance reste pourtant une condition fonctionnelle absolument indissociable du rôle historiquement premier de l'avocat, défendre son client. Dans ce contexte, le travail de thèse invite prioritairement à s'interroger sur la fonction sociale de l'avocat dans le système de droit, mais aussi plus largement dans la société contemporaine. Car pour déterminer comment l'indépendance de l'avocat, ou à tout le moins sa fonction, comment elle doit être préservée, et ainsi être en mesure d'adapter, voire de repenser le modèle sur lequel elle repose, encore faut-il s'interroger en amont sur la possibilité pour cette profession de préserver son unité, comme sur l'enjeu pour les membres de cette profession de conserver ce modèle fonctionnel sur lequel ils ont construit leur fonction, leur indépendance.